Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
La politique avec vous, Olivier Bosse. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Une question revient dans le débat après l'attentat de Nice. Faut-il rogner sur l'état de droit pour lutter plus efficacement contre le terrorisme?
C'est Marine Le Pen qui a relancé hier dans les couloirs de l'Assemblée nationale son idée d'une législation de guerre pour faire face au terrorisme. Puisque c'est bien une guerre que nous mènent les islamistes, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Dans l'esprit de Marine Le Pen, une législation de guerre permettrait par exemple d'enfermer à vie ceux qui ont été condamnés pour terrorisme, mais aussi d'enfermer ceux qui sont soupçonnés de vouloir perpétrer un attentat, le soupçon suffirait. Aujourd'hui, c'est en partie impossible avec notre droit, ce qui n'empêche pas des élus républicains de demander aujourd'hui la même chose. Le maire de Nice, Christian Estrosi, veut que la France s'exonère des lois de la paix pour anéantir définitivement l'islamo-fascisme. Le député Éric Ciotti l'a formulé à peine autrement, il faut arrêter ces pseudo-défenses des libertés individuelles. Dans la même veine, le général De Villiers, dans l'Express aujourd'hui, estime que notre état de droit n'est plus adapté à l'époque que nous vivons.
Mais on peut vraiment en finir avec l'état de droit?
Alors, avant de vous répondre, je vous propose un état des lieux rapide de notre état de droit. Une loi antiterroriste a été adoptée en moyenne tous les un an et demi depuis 1986. À chaque fois pour durcir, bien entendu, la législation. Oui. Même les mesures temporaires comme l'état d'urgence ont fini par être intégrées en partie dans le droit commun. Dire que l'on ne fait rien contre le terrorisme ou que l'on manque de moyens juridiques pour le faire peut donc déjà se discuter. Pour aller plus loin, il faudrait effectivement passer à autre chose que l'état de droit. C'est pour ça que Marine Le Pen et aujourd'hui des élus républicains parlent d'une législation de guerre, un régime d'exception.
Alors je repose ma question, est-ce que l'on peut en finir avec l'état de droit? On prend les choses au pied de la lettre.
Bah alors tel qu'il existe aujourd'hui, il faudrait modifier profondément la Constitution. Autant dire que ça n'arrivera pas, en tout cas pas dans l'immédiat. Le Rassemblement National et les Républicains d'ailleurs le savent très bien. Ils sont aussi dans une surenchère très politicienne, dans des circonstances dramatiques, horrible, effrayante, le plus dur, celui qui a le discours le plus dur, a toujours raison. Leur objectif est en fait de faire passer la loi contre le séparatisme que prépare le gouvernement comme déjà insuffisante. Un procès, en quelque sorte, en mollesse d'Emmanuel Macron. Voilà aussi leur motivation. Mais il ne faut jamais l'oublier, même avec l'horreur, l'émotion, la terreur que provoquent ces attentats. Si nous abandonnons un jour l'état de droit pour un droit de la guerre, nous ne reviendrons jamais à notre état de droit.
Olivier Bost, et je vous rappelle qu'à 7h40, c'est le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui sera ce matin l'invité politique d'RTL. Il répondra aux questions de Benjamin Sportouche. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour Escalvi.
Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers. Le terroriste de Nice serait tunisien et rentré le 4 octobre dernier via Lampedusa en France. Quel est votre commentaire?
Il est simplement que depuis l'annonce de l'ancien ministre des attentats de l'État islamique, M. Al-Adnani, qu'il y avait deux obligations désormais dans la guerre contre l'Occident. La première, c'était de venir défendre le califat sur place en Syrie et en Irak. Le califat territorial a disparu, mais le califat virtuel, lui, existe. La deuxième obligation, c'est avec n'importe quel moyen d'attaquer les Occidentaux chez eux. Et donc, nous attendions depuis déjà plusieurs années un certain nombre d'opérations individuelles qui ne sont pas des loups solitaires mais simplement des individus isolés et donc celle-ci en fait partie. Vous avez pu voir qu'on avait une série assez différenciée. On avait à la fois les importés, ceux qui venaient en mission, ceux qui sur le territoire s'étaient réveillés ou avaient pris des dispositions, et puis ce dernier qui ressemble à peu près aux équipes de 2015 arrivées par les voies de la migration. Très minoritaire dans ce cas d'ailleurs, mais passant très rapidement à l'acte, puisque entre début octobre et fin octobre, il a réussi à passer les frontières et à s'implanter sur le territoire.
Le confinement multiplie les alertes. Est-ce que vous pensez qu'il peut jouer un rôle dans les passages à l'acte?
Pas dans les passages à l'acte, mais il peut jouer un rôle en justement retrouvant une sécurisation de rue sur des espaces un peu plus dangereux que d'autres. Les attroupements, les salles de spectacle, etc. C'est un paradoxe absolu que de supprimer la vie collective pour éviter qu'elle soit elle-même atteinte par des attentats. Ceci dit, je rappelle que de très nombreux attentats ont visé des forces de sécurité ou des militaires, comme s'ils attiraient magnétiquement les terroristes.
On s'inquiète beaucoup des manifestations qui ont lieu dans l'ensemble du monde musulman, et en particulier des propos du président Erdogan. D'une certaine façon, est-ce qu'il est un acteur en ce moment des passages à l'acte, je vous parle du président turc, qui ont lieu sur le sol français ?
Non, le président turc, il a une vocation qui est celle, nous on parle de la Turquie, mais lui il pense qu'il est le sultan de l'Empire ottoman, et donc il faut toujours se rappeler que les empires ont une mémoire totale, complète, oui, qu'on ne supprime pas, pas plus que l'Empire chinois ou l'Empire russe. Et donc non, le président Erdogan, il est en compétition pour diriger le monde musulman, comme l'ayatollah Khomeini avait été en compétition pour diriger le monde musulman avec les fatwas contre Salman Rushdie. Chacun est dans son registre, mais personne ne dirige spécifiquement une opération ciblée. Alors, l'ayatollah Khomeini, c'était Salman Rushdie. Le président Erdogan, c'est la position de la France. Et je rappelle que la position de la France a toujours été en compétition avec l'Empire ottoman depuis toujours, particulièrement dans des espaces spécifiques comme le Liban. Je rappelle aussi que l'Empire ottoman a occupé la Mecque et considère que la position de l'Arabie Saoudite est illégitime. Donc cette compétition est géostratégique et pas locale.
Je fais le lien avec l'éditorial d'Olivier Bost. Est-ce qu'on peut aller plus loin en limitant un certain nombre des valeurs et des lois qui font fonctionner notre état de droit quand il faut lutter contre le terrorisme ?
Non, je ne crois pas. Je pense que la lutte contre le terrorisme, c'est de la volonté, de la cohérence et de l'équilibre. L'essentiel des problèmes qui sont rencontrés, si vous prenez chaque attentat un par un, la législation permettait d'y répondre, l'organisation était parfois défaillante, le renseignement c'est trois métiers, la collecte, on n'a jamais été aussi bon, l'analyse, on se rattrape et on a énormément de retard, et l'action, et donc il faut simplement se dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec les moyens disponibles au moment où ils étaient là. Vous connaissez la vieille théorie de Michel Rocard en matière de grandes catastrophes, toujours privilégier la connerie au complot. En la matière, nous avons un retard qui est la capacité à transformer des informations en analyse et l'analyse en action. On n'a pas besoin de nouveaux textes, on a besoin d'appliquer les anciens textes.
À cette question que vous venez de poser avec humour, et ça nous fait du bien, quelle est votre réponse ?
Ma réponse, c'est que si vous prenez les derniers attentats, le lendemain ou le surlendemain, 15 kilos de documents sortaient d'un peu partout pour vous dire qu'il avait été repéré, signalé, souligné, et que le nombre, justement, d'informations disponibles est tel qu'on est un peu noyé dans l'information. Donc la DGSI a fait un immense effort depuis 2015-2016 pour justement commencer à recruter des analystes, et on est passé d'une demi-douzaine d'opérations préventives à plus de 60 après le grand attentat de Nice le 14 juillet. Donc il y a encore quelques trous dans la raquette, notamment quand quelqu'un vient d'arriver de l'extérieur, mais la mise en cohérence de ces informations n'empêchera pas un attentat, ça c'est certain, et je crois que la volonté du ministre de l'Intérieur est sans faille de ce point de vue-là, mais il y a de gros efforts à faire, notamment sur le renseignement territorial, qui est aujourd'hui le sous-traitant de la DGSI, pour améliorer la capacité analytique et donc l'action préventive.
Donc c'est d'abord une question de terrain ?
C'est d'abord une question de terrain, c'est d'abord une question de cohérence, et puis c'est une question d'ouverture. On ne peut pas faire... Le renseignement, c'est pas seulement une affaire de police, c'est aussi une affaire de mutualisation de la capacité d'analyse, d'ouverture à l'extérieur. Vous savez, l'espionnage utilise tout. Il y a des ingénieurs, des doctorants, des experts. Il y en a très peu dans l'antiterrorisme parce qu'il a été modelé sur le contre-espionnage. Tout est secret et toute personne qui n'est pas directement un agent n'est pas totalement étanche. Donc, on ne peut pas totalement lui faire confiance. Donc, on ne peut pas travailler avec. Le contre-espionnage, c'est le temps long et le secret. L'antiterrorisme, c'est le temps court et le partage. Il faut juste comprendre ça pour nettement améliorer l'efficacité des services qui, d'ailleurs, il faut le dire, ont beaucoup, beaucoup progressé depuis 2015-2016.
Merci beaucoup Alain Bauer. Bonne journée à vous. Je rappelle le titre de votre tout dernier livre, Les criminels les plus cons de l'histoire, aux éditions First. Ça a peut-être un lien aussi avec ce qui nous réunit ce matin. Et je vous signale que Gérald Darmanin...